Chapitre 29. 1999. Je saute du matelas et je m'habille le plus rapidement possible. À force de caboter d'hôtel en hôtel, je suis rodée au départ express. Attraper une petite culotte, sauter dans ma jupe, enfiler mon t-shirt sans soutien-gorge. Je sors pieds nus, j'envoie un baiser volant à Iliane et je referme derrière moi la porte du camion. Je m'éloigne tout en appelant Olivier. Laura fiévreuse. Au lit. Le temps que mon coup de fil traverse l'Atlantique en rebondissant tout là-haut sur un satellite, je calcule le décalage horaire dans ma tête. Il doit être un peu plus de 18h en France. Olivier décroche aussitôt. Je m'arrête 3 pylônes plus loin, sous le beau portrait de Frida Kahlo, visage de miel, lèvres groseilles et regard noir sous ses sourcils en ailes d'aigle. Je laisse parler Oli sans l'interrompre. C'est plus simple ainsi. Les mots se connectent tout seuls. Je complète mentalement ceux qui me manquent quand ma concentration saute, à la façon d'une conversation qu'on tente de suivre dans une langue qu'on ne saisit pas tout à fait. Tu dormais? Désolé de t'avoir réveillé. J'ai attendu le plus possible. Laura n'était pas bien à l'école. Maîtresse inquiète, mal de tête, maux de ventre. Elle s'est plainte toute la journée. Laura, pas la maîtresse. Le docteur Prieur ne peut pas nous recevoir avant demain matin. Laura est couchée. Elle dort, elle s'est effondrée. Je l'ai écoutée comme un médecin attentif. Je m'écoute à présent délivrer à mon mari un diagnostic rassurant, lui donner du doliprane enfant avec la pipette, 19 kilos, la boîte rose dans le tiroir de gauche de la pharmacie. Sucer un demi-space-fond aussi. La faire boire, surveiller la température. Rappelle-moi si ça ne va pas mieux. Rappelle-moi surtout. Ma diction est fluide et mes conseils clairs, même si tout se bouscule dans ma tête. L'inquiétude, la culpabilité, et pire encore, le sentiment diffus que c'est une punition qu'on m'inflige, ou un premier avertissement plutôt. Aujourd'hui, ta fille n'a que 37,9. La prochaine fois, ce sera plus grave. Une péritonite, une méningite. Un message déguisé mais clair, envoyé par je ne sais quel dieu gardien de la moralité. Si tu trompes encore ton mari, tu mets en péril ta famille et l'innocent bonheur de ta fille. Une menace? Que ces donneurs de leçons tout là-haut essayent. Qu'ils touchent un cheveu de Laura. Je n'ai aucun compte à leur rendre. Je fais mon job. Mère, épouse. J'assure. Je donne tout sans calculer. Depuis des années. Mon temps, mes tripes, ma patience, ma constance, ma diplomatie, mon énergie. Sans compter. Alors quoi? Je n'aurais pas le droit à mon petit moment de liberté? De changer d'air, de planer, de me sentir légère, de m'élever d'un battement d'aile, de décider où me poser. Ensuite, je promets de rentrer, de refermer la cage, et même d'y chanter. Olivier n'est pas bavard, encore moins au téléphone, encore moins quand je suis en vol. Peut-être que je l'aime aussi pour ça. En tout cas, je me surprends à le remercier intérieurement de raccrocher aussi rapidement. Quand je reviens au chez Vivan, Iliane a enfilé un boxeur et fait chauffer un café sur le réchaud à gaz. Il ne me demande rien. Le tact incarné. Je me baisse pour ramasser mes affaires éparpillées autour du matelas. Mon sac à main, mon soutien-gorge, la pierre de temps. Iliane s'approche et me tend une tasse fumante. Je reste encore quelques jours à San Diego. Ensuite, je pars à Barcelone. J'ai un ou deux plans pour jouer. Mais tu ne fais que des longs courriers. J'attrape la tasse. Elle me brûle les doigts. Ce serait si simple de répondre oui. Je ne fais que des longs courriers, Ellie. 3 500 km minimum. On ne pourra se revoir qu'à Shanghai, Melbourne ou Johannesburg. C'est-à-dire, jamais. Dans un coin de mon cerveau, lointain, j'entends Laura tousser. Je vois Olivier inquiet, parfait. Veillant à son chevet. Puis je m'entends répondre. Je m'arrangerai. Je suis en repos la semaine prochaine, mais je peux poser un desiderata. En clair, choisir la destination où je veux aller. Iliane ne bouge plus. Surpris. J'observe sa nudité pétrifiée. Je m'arrangerai, Ili. La brûlure au bout de mes doigts se répand en incendie, m'embrase les bras, Le cœur, le ventre, incandescente de la pointe de mes seins au moindre poil de mon pubis. Je me laisse consumer par ce feu délicieux, tout en maudissant cette saleté de magie qu'on appelle le désir. J'ai beau me dire qu'Ilian n'est pas plus beau qu'un autre, pas plus musclé, ses fesses pas plus galbées, son torse pas mieux dessiné. Pourquoi ai-je tant envie de lui? Parce que la plus belle des paires de fesses ne peut lutter contre un simple sourire? Il me sourit. Si tu viens me retrouver à Barcelone, à mon tour de te faire une promesse. Il se tient à quelques centimètres de moi. Une de mes mains lâche la tasse pour balayer ma mèche avant de se poser sur sa barbe naissante et de suivre d'un doigt la pente de son cou. « Tu te souviens ?» poursuit-il. « Le cinéma sous les étoiles à Montréal. Guido, dans La vie est belle. Comment il parvient à séduire sa princesse ?» Le bout de mon index tout chaud tourne autour de son aréole brune. « Oui. » « Si tu viens me rejoindre à Barcelone, » dit-il encore, « je te promets que tu tomberas amoureuse de moi. » Mon doigt s'arrête, ma bouche mordille le téton de ce vilain coq dressé sur son ergot. Une nuit d'amour en virtuose, quelque « je t'aime » avoué quand le corps explose, et le voilà qui surdimensionne son ego. Je murmure. « Tu crois ça ? Méfie-toi plutôt que ça ne t'arrive pas. » Sa main épouse le bas de mon dos, bien à plat, puis d'une tendre pression invite le doux coussin de mon ventre à faire une petite place à la bosse qui déforme son boxeur. C'est déjà arrivé, Nati. Je le suis déjà. Amoureux de toi.
Quand nos derniers tours de manège seront premiers tours de ménage, quand le vol de nos cœurs en plumes coulera du poids de nos peurs enclumes. Quand nos fous rires à la fourrière, quand nos soupirs à la soupière. Que restera-t-il d'hier ?